Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro pour parler ensemble de musique sacrée. Et aujourd'hui, un thème absolument incroyable qui rejoint celui du thème liturgique de la semaine, à savoir l'ascension du Seigneur. C'est bien entendu quelque chose de tellement imagé, tellement puissant et en même temps tellement mystique que vous vous doutez bien que là aussi, les musiciens au cours de l'histoire s'en sont donnés à cœur joie pour faire des œuvres toutes plus extraordinaires les unes que les autres, afin de pouvoir rendre grâce et rendre plus visible et perceptible aux oreilles de ceux qui l'entendaient le mystère de l'ascension du Christ. C'est bien entendu une longue histoire de la musique que l'on s'apprête à faire. Alors bien entendu, vous doutez bien que, n'ayant qu'une semaine pour en parler, je ne vais choisir que quelques petits extraits afin de pouvoir développer avec vous des mystères de la musique et celle qu'elle nous propose. Et bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec Jean-Sébastien Bach et son oratorio de l'Ascension, car oui, il a écrit un oratorio de l'Ascension bien moins célèbre que ses cousins ou ses frères, on pourra dire de l'oratorio de Noël ou de celui de Pâques. L'oratorio de l'Ascension, pourtant, est une œuvre très appréciée du compositeur qu'il a dirigé lui-même le 15 mai 1738 et qui a été fait véritablement pour l'Ascension. Il s'agit d'un texte extraordinaire qui a été désigné par le compositeur lui-même en latin « Oratorium Infesto Ascensionis », donc le doute n'est pas permis. Effectivement, c'est fait pour l'Ascension stricto sensu. C'est également une cantate, la BWV 11, qui est considérée d'ailleurs plutôt comme un oratorio par le compositeur lui-même, vous l'avez entendu en latin, et qui met en scène, toujours comme d'habitude par Bach, des extraits de la Bible pour rendre témoignage de ce mystère de l'Ascension. Donc il y a plusieurs extraits qui sont pris, il y a des extraits de l'évangile de Luc, de l'acte des apôtres, de l'évangile de Marc également. Donc voilà, plusieurs extraits qui sont là. Et initialement, cet oratorio était prévu pour être scindé en deux. Une première partie, puisqu'il y a 11 mouvements, les 6 premiers mouvements devaient être joués avant le sermon de l'officiant, et puis les 5 derniers après. Donc voilà, une structure binaire, un petit peu souvent, hein, c'est un petit peu souvent le cas chez Jean-Sébastien Bach, et donc c'est aussi le cas dans cette association. On va commencer avec le premier chœur de cette cantate, de cet oratorio qui est absolument extraordinaire. Vous allez entendre, alors il est tiré de l'évangile de Luc au premier chapitre, versets 46-48, et là il y a quelque chose d'extraordinaire qui est uniquement basé sur la louange de Dieu, puisque la traduction du texte que vous allez entendre c'est « louer Dieu dans ses royaumes », donc une véritable porte ouverte vers la louange et bien entendu vers le ciel. Vous allez tout de suite le comprendre avec l'instrumentation, on est dans la festivité la plus totale, avec là aussi tout ce que compte de richesse un orchestre baroque, avec des timbales qui annoncent cette ouverture vers le ciel, des trompettes également, la virtuosité des violons et bien entendu l'installation du chœur, avec là aussi des tons véritablement joyeux, extraordinaires, comme si on accueillait l'âme du Christ, son corps transfiguré, vers la joie la plus parfaite du Père. Donc vous allez l'entendre, là aussi une structure que vous avez l'habitude d'entendre chez Jean-Sébastien Bach, avec une introduction instrumentale, puis rejointe par le chœur, qui est magnifique et qui est magnifié aussi par toute l'imbrication de ces instruments et des voix qui forment un tout absolument cohérent et qui montent vers une seule destination, le ciel. Bien entendu, le reste, on ne pourra pas l'écouter puisque ça dure à peu près entre 30 et 35 minutes. Il y a différentes choses, hein, des chœurs, des récitatifs, des arias, et ça se termine par un choral absolument extraordinaire que je vous invite à découvrir aussi. Voici donc le premier extrait, premier mouvement, si j'ose dire, de cette cantate BWV 11, « Louez Dieu dans ses royaumes » de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Avec tant de joie, bien entendu, on ne peut que se retrouver chez Jean-Sébastien Bach avec cet extraordinaire premier chœur de son oratorio pour l'Ascension, là aussi le début d'une vaste série de pièces toutes plus extraordinaires, les unes que les autres, dans des styles bien entendu différents, puisque vous le savez, dans ces oratorios, il y a diverses façons d'exprimer la musique, notamment l'évangéliste, souvent retranscrit avec un soliste, souvent un ténor, qui relate les faits qui sont présents dans les évangiles, et également les autres extraits qui, là, sont issus soit de chorale luthérien un petit peu antérieure, c'est le cas notamment de deux de ces chœurs de cet oratorio, et bien entendu sinon d'autres extraits de la Bible qui sont là aussi illustrés. N'oubliez pas que c'est la façon protestante de fonctionner, c'est-à-dire toujours dans la catéchèse musicale, donc de pouvoir donner un maximum d'informations sur la Bible, sur les commentaires, afin de pouvoir apprécier au mieux les mystères évoqués dans ces cantates-là ou dans cet oratorio-là, en l'espèce celui de l'Ascension, qui à lui seul est un tel mystère que naturellement, pourquoi les musiciens eux aussi ne feraient pas une homélie à leur manière et expliqueraient la musique. Et effectivement, là, il y a ce côté exubérant, ce côté joie, je vous le disais, par l'instrumentation, avec ces doubles qui arrivent dès le début, yagadam, tagadam, tam, voilà, par les trompettes qui donnent un côté tellement sautillant, tellement joyeux et qui prête évidemment à se dire mon Dieu que la musique est belle, mais mon Dieu que ce qui nous attend en haut a du vraiment peut-être un lien avec la joie la plus parfaite, la joie en tout cas du Christ qui monte au ciel. C'est ce qu'a voulu ici dire Jean-Sébastien Bach et qui je pense est parfaitement retranscrit par sa musique. Autre salle, autre ambiance si j'ose dire, avec un compositeur là aussi que j'aime infiniment, que je mets au même rang d'ailleurs que Jean-Sébastien Bach sur l'aspect mystique et la retranscription de sa foi dans son œuvre. Il s'agit de Olivier Messiaen, un organiste et compositeur très célèbre qui a œuvré à Paris à l'église de la Trinité au XXe siècle, un compositeur de génie qui a connu les affres de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a écrit des pièces toutes plus extraordinaires les unes que les autres pour cet instrument de prédilection pour lui qui était l'orgue. Il a écrit plusieurs pièces de l'Ascension. Alors, il s'agit initialement d'une œuvre qui a été composée pour orchestre en 1932 et 1933, si ma mémoire est bonne, et il a retranscrite et réadapté pour l'orgue en 1933. Alors, sachant que l'œuvre pour orgue est légèrement différente de l'œuvre pour orchestre, notamment pour le troisième mouvement. Alors, il y a quatre mouvements hein, dans l'association l'Ascension d'Olivier Messiaen, et en fait, le troisième mouvement qui, pour orchestre, était intitulé Alléluia sur la trompette, Alléluia sur la cymbale. Comme il ne pouvait pas être transcrit pour l'orgue, eh bien, Olivier Messiaen a composé une nouvelle pièce, tout exprès. Ce sont les transports de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne. On reconnaît, avec cette façon un petit peu verbeuse peut-être de parler, la façon d'Olivier Messiaen, très mystique, de pouvoir apprécier le mystère de l'Ascension. Voici le nom des quatre morceaux. Le premier, c'est la majesté du Christ demandant sa gloire à son Père. Le deuxième sont les Alléluia sereins d'une âme qui désire le ciel. Le troisième, donc, les transports de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne. Et la dernière pièce, la prière du Christ montant vers son Père. Et la pièce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle spécialement composée pour l'orgue, les transports de joie, pièce absolument extraordinaire, jouée ici avec brio par Jean-Claude Reynaud au grand orgue Cavaillé-École de Saint-Sernin de Toulouse. C'est un morceau absolument extraordinaire, là aussi avec beaucoup de joie, vous allez entendre, d'un son très percussif, avec toute la puissance de l'orgue qui est utilisée dès les premières notes, ta-ta-tam, qui est annoncé comme une joie profonde, et là on pense effectivement à ces fameux transports de joie, et tout au long de cette pièce, une immense virtuosité, pièce qui comporte un début tonitruant, un milieu un petit peu plus intimiste, et enfin une fin terriblement virtuose avec ces traits qui montent vers le ciel d'une virtuosité folle, parfaitement retranscrite ici par l'organiste, et qui monte là aussi vers le ciel. C'est une autre appréciation, mais on peut faire des corrélations entre la façon d'apprécier de Bach et celle de Messiaen. Il y a chez Messiaen une joie tout à fait profonde et une façon de lier le ciel et la terre. Vous avez cette introduction yatatam et tout de suite après la pédale, donc comme s'il y avait cette espèce de dualité entre les trompettes célestes et ce qui existe ici-bas sur ce monde, et avec à la fin ce transport de joie avec ce trait tellement virtuose qui nous emmène directement vers le ciel. Voici donc les transports de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne d'Olivier Messiaen.
Thank you.
Et c'est sur cet accord parfait triomphal que se terminent ces transports de joie si extraordinaires d'Olivier Messiaen, une œuvre absolument extraordinaire à plus d'un titre. Vous n'appréciez peut-être pas ce type de musique, effectivement beaucoup moins accessible, c'est la musique du XXe siècle, héritier de beaucoup de distorsions dans la musique, qui a été permis notamment par Alexander Scriabine, etc. Je ne vais pas vous faire toute cette genèse absolument extraordinaire de la musique qui a connu plusieurs structures, et notamment au cours du XXe siècle, mais il y a un parallélisme assez évident à faire entre l'œuvre de Bach et celle de Messiaen par cette expression de la joie sur le thème de l'ascension qui est commune à ces deux compositeurs, qui est si extraordinaire et qui se caractérise là par cette virtuosité, parce que bien entendu il s'agit d'une pièce extrêmement classique pour tous les organistes, très connus également parce que ça fait partie de ces grandes pièces pour orgue, non seulement incroyable à jouer, mais également à entendre naturellement in situ. Donc si ça vous a plu, si vous êtes sujet sensible à cette musique, il faut savoir qu'elle est également très particulière parce que Olivier Messiaen était synesthète, c'est-à-dire qu'il voyait des couleurs également, de la matérialité dans sa musique, dans des blocs de sonores qui devenaient des blocs presque de marbre à sculpter, etc. Et avec des couleurs, ça se perçoit assez souvent, mais in situ. Donc si vous avez un concert d'Olivier Messiaen, surtout il faut y aller, ça vous permettra de vous rendre compte de la musique. Donc si ça vous a plu, je vous invite à découvrir les autres morceaux de l'Ascension d'Olivier Messiaen, et si vous avez envie de pousser l'analyse un petit peu plus loin, je vous invite, comme je vous l'avais dit, à écouter l'Ascension de 1932-1933 pour orchestre d'Olivier Messiaen et pour faire une idée de toutes ces pièces-là si extraordinaires. On va rester au XXe siècle avec un autre compositeur dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois. Il s'agit de Flor Peters, un Belge, qui a composé, entre autres choses, une Missa Festiva absolument extraordinaire. Donc je fais du recyclage, vous me direz, puisque je vous ai déjà parlé de cette messe et déjà parlé de cette pièce. Il s'agit du Sanctus. Je vous invite là aussi à écouter toute la messe qui est sublime. C'est une des trouvailles de l'année pour moi. Et il y a dans ce Sanctus quelque chose d'extraordinaire et que je voulais mettre en corrélation avec l'Ascension. Donc peut-être est-ce une lecture de ma part, mais je trouve qu'elle se justifie bien. Quand on parle du texte du Sanctus, il y a un côté terrestre et en même temps aérien céleste. C'est-à-dire qu'on loue un roi bien terrestre, puisque souvenez-vous qu'il s'agit des cris de joie et des gens qui ont reçu Jésus à Jérusalem, donc un roi terrestre. Et en même temps, Hosanna au plus haut des cieux, il y a quelque chose qui renvoie vers le ciel, et donc il y a cet aspect terrestre donc d'ascension. Également, puisque c'est les cris qui ont accueilli le Christ lors de la Semaine Sainte, il y a forcément au loin, dans le Sanctus, ce spectre, j'oserais dire, de la croix, et la croix qui est aussi le symbole de la suspension entre le ciel et la terre. Et donc, évidemment, quand on écoute ce Sanctus de la Missa Festiva, on pense à cet aspect très aérien et cette ascension vers le ciel. Ça commence dès cet accord absolument éthéré, extraordinaire, qui est repris par le chœur et qui va vers le ciel avec l'orgue, avec une boîte fermée du récit expressif qui monte vers le ciel comme s'il y avait des escaliers. Et d'ailleurs, le morceau termine comme ça, avec un accord tellement planant, tellement aérien, tellement céleste, comme si les anges le reprenaient en chœur et en sourdine là-haut, et l'orgue qui termine avec cet escalier qui monte tout droit vers le ciel. Voici donc le Sanctus de la Missa Festiva de Flor Peters. Ce qui me fait penser au ciel quand j'écoute cette messe si extraordinaire et ce Sanctus en particulier, c'est la légèreté des chœurs, la légèreté également de l'orgue qui termine seul, comme si on se retrouvait encore une fois dans l'écho du chant des anges, parce que vous savez que le Sanctus est également repris par le chœur des anges, et il y a cet aspect extraordinaire, si éthéré, si léger, si aérien, avec ce final qui est d'une beauté tellement saisissante, qui moi en tout cas me parle, avec ses sonorités. Cet accord parfait là aussi enrichi avec une septième, enfin bon, là je parle pour les musiciens, mais c'est cet accord qui utilise toutes les harmoniques afin de faire vibrer au mieux et au plus fort cette musique si extraordinaire qui s'élève vers le ciel, comme en témoigne la fin de ce Sanctus de Flor Peters. Je vous invite là aussi à redécouvrir l'intégralité de sa messe Festiva, qui est un très bel exemple de belle messe réussie du 20e siècle. Voilà pour nous aujourd'hui. Tant que je vous tiens, je vais vous mettre au courant de notre prochaine séance pour la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Il s'agit de notre concert de fin d'année qui aura lieu le 14 juin, sauf erreur de ma part, à 20h à la Basilique Saint-Sernin. Nous allons reprendre le Requiem de Maurice Duruflé, mais cette fois-ci dans sa version avec grand orchestre. Ce sera dirigé par Charles Dubert et son orchestre de la Chambre Symphonique de Toulouse. Également, pour ce concert-là, vous entendrez quelques autres grandes œuvres, notamment le concerto pour cordes, timbales et orgue de Francis Poulenc avec Michel Bouvard au grand orgue, toujours avec le même orchestre, et j'aurai le plaisir quant à moi de diriger une petite partie du concert avec les 4 motets sur des thèmes grégoriens que je vous ai déjà fait découvrir de Maurice Duruflé. Prenez donc votre date, il s'agit du 14 juin, ça sera un très beau concert. D'ici là, et d'ici la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt sur Radio Présence et à bientôt sur Point d'Orgue.